Brève juridique de mars 2013 de Prosiosis et Caldi, avocat associé. 1. Actualité du dommage corporel et de l'indemnisation. A. Encore deux décisions intéressantes à retenir ce mois-ci. La première a été rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, TAS, d'arrêt en date du 17 décembre 2012, recours NDEG 20 110 339. Les faits étaient les suivants. Renversé par une voiture alors qu'il était à vélo, un jeune garçon de 13 ans, victime d'un polytraumatisme après dominance crânio-encéphalique, s'est vu prescrire un séjour d'évaluation neurologique à l'hôpital de Liège, en Belgique. Son père, tuteur légal, en a régulièrement sollicité la prise en charge auprès de son organisme social de rattachement, la CPLM de l'Artois. Celle-ci lui a notifié une décision de refus au motif, en substance, que les soins en question nécessitaient une autorisation préalable, qui n'avait pas été demandée, en tout état de cause, qu'il s'agissait de soins programmés à l'étranger qui n'étaient pas couverts par la réglementation française. Cette décision a été contestée devant la commission de recours amiable de la CPLM de l'Artois qui, à son tour, et pour les mêmes raisons, a rejeté la demande de prise en charge. Nous avons alors saisi le TAS d'un recours aux fins d'annulation. Par un premier jugement en date du 30 décembre 2011, il a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec mission de dire si le séjour d'évaluation au CHU de Liège relativement à la jeune victime comprend des actes qualifiables de soins, dont la prise en charge est prévue par la réglementation française. L'expert judiciaire a procédé à sa mission et a déposé un rapport en date du 20 juin 2012 au terme duquel lors d'un séjour d'évaluation neurologique au CHU de Liège, les investigations complémentaires et les données de l'examen neurologique et neuropsychologique ont permis de redresser le diagnostic d'état végétatif chronique par celui d'état de conscience minimale. Il a ajouté que toutes ces investigations sont des pratiques totalement validées pour mieux faire la part entre l'état végétatif chronique et l'état de conscience minimale avant de conclure comme suit. La prise en charge de soins à l'étranger relève de l'article R322.4 du Code de la Sécurité sociale et ne peut être refusée puisque les soins figurent dans la pratique de soins adaptée à cette pathologie. Cette hospitalisation est regroupée des actes validés prévus par la réglementation française. Fort logiquement, sur la base de ce rapport, le TAS, par la décision précitée, a fait droit à la demande de notre client et, infirmant la décision de la commission de recours amiable, a condamné la CPLM à prendre en charge les soins programmés en Belgique pour la jeune victime. La seconde décision à relever a été prononcée par la Cour d'appel de Bastia en date du 6 février 2013, RGND 211-00733. Tenue d'évaluer le préjudice corporel d'un jeune chef d'entreprise, 38 ans, victime d'un grave accident de la route duquel il conservait, notamment, des séquelles neurologiques et neuropsychologiques très invalidantes, lui valant un taux d'EB de 50%, la Cour a fait preuve de pragmatisme et d'objectivité. Elle a en effet indemnisé les besoins en aide humaine de notre client, 15 heures par semaine, sur la base d'un taux horaire de 20 euros pour les arrérages échus, et de 21 euros pour les arrérages à échoir, indemnisé sous la forme d'un capital de 450 040 euros, en s'appuyant sur des devis locaux attestant du tarif réel de cette assistance. On peut aussi relever la somme de 444 897,88 euros qu'il est alloué au titre du préjudice professionnel futur, dont la réalité était contestée par l'assureur, le Loi de Londres, ainsi que celle de 15 000 euros du chef du préjudice d'établissement, la Cour ayant reconnu que l'utilisation d'une canne peut constituer un frein à la rencontre d'un partenaire. B. Un très important arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 février 2013, pour voie NDEG 12, 23706, doit aussi être relevé. Il concerne la question de l'éventuelle imputation de la prestation compensatoire du handicap, PCH, servie par les conseils généraux, sur les indemnités allouées aux victimes de dommages corporels, tout particulièrement sur le poste assistance par tierce personne. S'appuyant sur un vide juridique, les règleurs, assureurs, fonds de garantie, ONIAM, prétendent de plus en plus souvent, pour réduire leur obligation indemnitaire, que cette prestation doit se déduire des sommes octroyées aux victimes. La réponse de la Haute Cour, saisie dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, est claire et précise, les personnes handicapées peuvent cumuler les indemnités réparatrices versées amiablement ou judiciairement, avec cette prestation qui est dépourvue de caractère indemnitaire, et dont le montant est modulé en fonction des besoins et des ressources de chaque victime. Dont acte. 2. Réparation intégrale et autres principes d'indemnisation. Plusieurs décisions de la Cour de cassation doivent être signalées. A. La Cour suprême a d'abord réitéré son refus des barèmes d'indemnisation, 2e chambre civile, 22 novembre 2012, Gazette du Palais, 15, 16 février 2012. L'espèce était la suivante, pour le décès de leur mari et père, tué par un gendarme sous leurs yeux, l'épouse et l'enfant du défunt avaient perçu des premiers juges, au titre de leurs préjudices d'affection respectifs, une somme de 56 000 euros chacune. La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion réduisait ces sommes respectivement à 30 000 euros et 25 000 euros au motif qu'il convient de rester, malgré tout, dans les limites de certains barèmes, car toute indemnisation a ses limites. La Cour de cassation censurera juste titre cette position en rappelant qu'en statuant par référence à un barème, sans procéder à l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale. Ce faisant, la Haute Cour envoie un nouveau signal mettant en garde contre toute velléité de barémisation. B. Dans une 2 NDE espèce, 2e chambre civile, 13 décembre 2012, pourvoi l'NDE G11, 13014, la Cour de cassation a réaffirmé que l'action en réparation au titre d'une aggravation s'apprécie de façon autonome. Sans égard aux prescriptions de l'action concernant le dommage initial ou les éventuelles aggravations antérieures, les faits dont elle était saisie étaient les suivants. Une jeune femme est victime d'un accident de la route en 1984. Le dommage initial est consolidé en 1986, et son indemnisation intervient en deux temps, en 1988 et 1990. Une aggravation survient en 1996, elle est considérée comme consolidée en 1998, et définitivement indemnisée en 2004. En 2008, la victime fait état d'une nouvelle aggravation de son état de santé, et en sollicite l'indemnisation. L'assureur, Allianz, s'y oppose au motif que l'action ainsi engagée serait prescrite pour avoir été introduite plus de 10 ans après la consolidation du premier dommage aggravé, 1998. La cour d'appel de Basse-Terre suit son raisonnement et déboute la victime, laquelle se pourvoit alors en cassation. La Cour suprême lui donne raison et censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 2226 du Code civil, au terme duquel la prescription de l'action en réparation d'un dommage corporel est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, en énonçant que le recours en aggravation s'apprécie en tant que tel. Sans égard, du point de vue de la prescription, au dommage initial ou à une éventuelle aggravation antérieure. Cette solution tient du bon sens, suivre l'assureur serait revenu à dire qu'aucune aggravation de l'état de santé d'une victime ne peut intervenir au-delà des 10 années, après qu'elle ait été consolidée, ce que l'expérience dément hélas régulièrement. C. En matière de transaction, la Cour de cassation, première chambre civile, 14 novembre 2012, Gazette du Palais, 15-16 février 2012, a rappelé un principe bien connu, seuls les postes de préjudice expressément visés dans une transaction sont revêtus de l'autorité de chose jugée, partant, ne sont plus indemnisables, sauf aggravation bien entendu. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la rédaction d'une transaction et, singulièrement sur la nécessité qu'elle identifie aussi clairement que possible, les postes de préjudice indemnisés, en évitant l'emploi d'expressions maladroites et portant à confusion. D. On sait que l'article L376-1 du Code de la Sécurité sociale impose à la victime ou à ses ayants droit d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux, CPLM et autres, auxquels la victime est, ou était, affiliée. La Cour de cassation, chambre criminelle, 16 octobre 2012, Gazette du Palais, 22 février 2012, vient d'indiquer que cette mise en cause ne s'impose pas lorsque seule la réparation des postes de préjudice personnel, souffrance en durée, déficit fonctionnel temporaire. Préjudice esthétique, préjudice d'agrément, est sollicité. E. Une espèce singulière retient enfin l'attention. La victime d'un accident présente un bégaiement, qui disparaît avant la consolidation. Elle en réclame réparation. La Cour suprême, 2e chambre civile, 22 novembre 2012, pourvoi l'NDE G11, 25661, fait droit à sa demande en énonçant que ce bégaiement, qui constitue un trouble de l'élocution médicalement constaté, est directement imputable à l'accident. Est indemnisable, au titre du préjudice esthétique temporaire. Cet arrêt confirme que le préjudice esthétique temporaire doit être entendu de manière large. Il n'est pas réservé au seul grand traumatisme, grand brûlé par exemple, mais est indemnisable dès qu'il est objectivé, il concerne l'esthétique visuelle, mais aussi toute autre forme d'esthétique, par exemple vocale. Source, Prosiosis et Caldi, avocat associé.